Amis auditeurs, bonjour. On commence par le confit de canard de la semaine, c'est-à-dire le canard du 6 au 5 octobre. Chic, les systémiques. Éplucher sa pomme ou laver son raisin avant de croquer dedans. On pense tous que c'est le bon moyen de ne pas avaler des résidus de pesticides. Mais ce serait trop beau, comme vient de le montrer un petit test amusant réalisé sur des pommes. Un fruit qui n'a pas été choisi au hasard, avec près de 35 traitements par an. C'est la deuxième culture la plus pesticidée derrière la vigne. L'association des consommateurs Que Choisir, en octobre 2016, en a fait analyser des pommes achetées au supermarché et les a divisées en trois lots. Dans le premier, les fruits ont déjà été épluchés. Dans le deuxième, ils ont eu droit à un lavage superficiel et frottage pendant 10 secondes. Le contenu du troisième panier a été lavé tel quel, a été laissé tel quel, pardon. Résultat des courses, les pommes passées sous l'eau affichaient en moyenne 8 molécules chimiques, soit une de moins seulement que celle qui n'avait été ni pelée ni rincée. Mieux, les pommes dûment épluchées affichaient encore en moyenne 6 molécules. Certes, on peut toujours se dire qu'en lavant sa pomme, on enlève 12% des résidus et que si on prend le temps d'aller ôter toute la peau, avec un couteau, on retire 67% des molécules chimiques. Mais on en avale quand même un paquet. Pourquoi ? D'abord, parce qu'une grande partie de ces pesticides vaporisés sur les fruits est très peu soluble dans l'eau. Non seulement ils s'accrochent à la peau, mais ils s'enfoncent dans la chair jusqu'à 8 mm. Et puis, ce dont l'industrie phytosanitaire ne se vante pas, c'est le recours de plus en plus fréquent aux pesticides plus systémiques. Des produits conçus pour pénétrer à l'intérieur de la plante et s'y diffuser partout via la sève. Le pire, c'est que les systémiques ont été vendus au pouvoir public comme une innovation technique qui allait permettre de diminuer la fréquence du traitement. La solution pour atteindre l'objectif du fameux plan Ecofit. Lancé en 2008 dans la foulée du Grenelle de l'environnement, il ambitionnait de réduire de moitié en 10 ans la quantité de pesticides épandus. Sauf que à un an et demi maintenant de l'échéance, c'est mal parti. Entre 2012 et 2016, l'utilisation des produits phytosanitaires a bondi de 9% par an. Ni un ni deux, notre ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a remis sur la table 71 millions pour un Ecofit 2, avec toujours cet objectif de diviser par deux les épandages, mais cette fois pour 2025. Après l'inversion de la courbe du chômage, l'inversion de la courbe des pesticides, et à propos des choses qui devraient nous tourmenter davantage, j'ai entendu une émission, je crois que c'était CO2 Mon Amour sur France Inter, où on citait ce qui se passe en Argentine. L'Argentine est un gros producteur de soja OGM qui permet de diffuser, de jeter des herbicides en abondance sur la récolte, puisque le soja ne sera pas détruit par les herbicides en question, notamment le Roundup. Or, il se trouve qu'il y a une flottille de 1100 avions qui jettent des pesticides par en aérosol sur les cultures, et ça produit, donc ça empoisonne l'eau, ça empoisonne l'air. Et il se trouve qu'actuellement, il y a, je crois que c'est plus d'un million de femmes en Argentine qui est impactée par ces pesticides. Ça produit soit des fausses couches, soit même la mort de la personne, mais surtout des malformations chez les bébés. Donc, on voit qu'est-ce qui se passe quand on fait n'importe quoi. Donc, à nous de ne pas essayer de trouver ceux qui nourrissent leurs vaches avec de l'herbe et manger la viande de ces vaches-là, plutôt que de contribuer à provoquer des malformations chez les bébés en Argentine en mangeant de la viande de vaches qui aura été nourrie aux OGM argentins. Donc, à chacun de faire comme il le sent. Moi, je vous invite à vous rebeller contre tout ce trafic de la nourriture en achetant de plus en plus près de chez vous à des gens que vous connaissez et de qui vous savez comment ils travaillent et ce qu'ils emploient comme complément pour faire pousser leurs légumes. Je vous ai lu votre lors d'une émission précédente un hommage à Nicolas Dunz, qui a quitté ce monde le 31 juillet à 65 ans, après un dernier combat contre la maladie. J'aimerais vous citer quelques témoignages de gens de la Confédération paysanne qui ont été très proches de lui. Tout d'abord, celui de Laurent Pinatel, porte-parole actuel de la Confédération paysanne. En parlant de Nicolas Dunz, une vraie conscience politique. Triste nouvelle. Paysan vigneron dans le Gard, Nicolas Dunz avait intégré le secrétariat national de la Confédération paysanne en 2001, suite au congrès de Castres. Il a été un porte-parole national de 2002 à 2004 et a quitté le secrétariat lors du congrès de Die en 2005. Je ne vais pas retracer l'histoire syndicale de Nicolas. Je n'en ai ni la légitimité, ni la compétence. La première fois que j'ai croisé le bonhomme lors du congrès de Castres en 2001, je me suis dit, on ne va pas rire tous les jours avec un secrétaire national pareil. Cette impression première s'est régulièrement confirmée par la suite. Nous n'étions pas du même camp, entre guillemets, de la même tendance, entre guillemets. Puis j'ai à mon tour intégré le comité national et ma route a croisé encore plus souvent celle de Nicolas. Je le craignais, tout en reconnaissant un véritable stratège, une vraie conscience politique. Et puis, il y a eu le congrès de Nevers. J'ai très très mal vécu ce congrès. Une confédération paysanne coupée en deux. Je suis reparti avec l'impression qu'il y avait urgence à remettre du dialogue, à nous écouter plutôt que de nous affronter, encore et encore, bêtement, stérilement. Il y a eu ensuite cette période entre le Congrès et le Comité national électif, et Nicolas ne m'a pas ménagé, moi le candidat au poste de porte-parole. Ces mails m'ont fait mal, mais n'ont en rien altéré cette obsession naissante de contribuer à une confédération où tout le monde se sent bien, où tout le monde sent qu'il est important. Nicolas Dunz a été l'un des premiers à me tendre la main, à sa façon, à comprendre ma volonté de réunir plutôt que de diviser, d'être le porte-parole de la Confédération paysanne et non pas celui d'une des tendances. J'ai alors découvert et l'homme et le personnage. Je me souviens d'un repas partagé à Narbonne au début de l'automne 2013, d'une interminable et passionnante discussion, puis d'un autre repas, le même automne dans le jardin de Bagnolet. J'ai appris à apprécier Nicolas Dunz. Je prenais un réel plaisir à échanger avec lui. À l'annonce de son décès, je me dis que la Confédération paysanne perd l'une de ses figures emblématiques et qu'il est qu'à moi. Il va réellement me manquer beaucoup. Ensuite, un deuxième témoignage, celui de Mikel Iribarren, qui est donc un berger basque. Nicolas était une figure de la Confédération. Nous en aurions volontiers partagé encore un peu de ce rouge, de ce vin qui révélait le terroir profond et le soleil généreux du sud, de ce drapeau brandi à tous les vents pour clamer dignité et justice pour tous ceux et toutes celles qui n'ont que leurs bras pour vivre, de ce cœur qui a trop donné dans tous ces combats avec tant de camarades. Il me reste en mémoire ce courriel qui nous envoyait un beau matin de l'année dernière, alors qu'il nettoyait des fossés sur sa ferme avec du feu, son téléphone était tombé dans les flammes. On n'a pas de mal à imaginer la rage de Nicolas qui venait de voir partir en fumée tous ses contacts. Sans doute avions-nous été nombreux à lui renvoyer nos coordonnées. Il se rappellera à nous de temps à autre. Agur, salut, adieu en basque. Nicolas Dunz. Troisième témoignage, c'est celui de Estelle Raymond, qui est ancienne animatrice de la Confédération paysanne du Languedoc-Roussillon. Suivre son cours. Tout près des vignes de Nicolas Dunz coule une rivière, le Gardon. À Cruvier-Lascours, son village, le Gardon est déjà devenu une rivière large, opaque, voire boueuse, mais parfois sujette à de brusques débordements. Une nature paisible et parfois coléreuse, telle n'était pas la nature de Nicolas Dunz. On l'aurait plutôt trouvé à demi-heure de là, à Mialet, en amont de ce même Gardon, sur les lieux mêmes où le pouvoir central a excusez-moi, j'ai une peine à lire la typographie de cet article. « Donc, à Mialet, on a, en amont de ce même Gardon, sur les lieux mêmes où le pouvoir central a exterminé des villages entiers pour leurs croyances, je fais référence évidemment à la période huguenote, là, l'eau y est transparente. Elle court et se heurte au rocher. Elle trace sa route et façonne le paysage. Là, les protestants se regroupèrent, résistèrent pour leur foi, s'exilèrent pour certains dans les terres du Nord, avant de revenir en ramenant des patronymes aux consonances un peu étranges. Les Duns s'étaient installés dans la plaine, s'enracinant dans une autre culture populaire, une autre culture de révolte, celle des vignerons rouges du Midi, celle de la révolte de 1907, celle des abattoirs, des abattus de Montredon en 76, il y a 40 ans. Pour les 30 ans, peu de vignerons avaient assisté à la commémoration de ces émeutes dans un vent glacial. Nicolas y était, révolté que déjà personne ne se souvienne. C'est donc ce témoignage d'Émilie Estelle Raymond. Et encore un dernier, la rage et l'espoir. Parti ce 31 juillet vers d'autres aventures, Nicolas nous a légué un immense héritage. J'ai rencontré cet héritage pour la première fois dans les couloirs du lycée de Nîmes, à l'âge où encore adolescent, on se demande pourquoi on est là. La réponse de Nicolas fut sa rage de vivre pour dénoncer et lutter contre toutes les injustices. Mandela était encore en prison, les bombes pleuvaient sur le Vietnam et Franco exécutait ses opposants politiques de l'autre côté des Pyrénées. Nous avons alors découvert les visages des égarés qui peuplaient la nuit les cellules du commissariat de police où nous affichent de soutien aux combattants vietnamiens et au boycott des oranges de l'apartheid en Afrique du Sud. Cette rage contagieuse de vivre sans concession, cette rage n'a jamais quitté Nicolas. Nous avons donc trouvé dans le travail de la terre l'espoir de construire un monde plus juste, au détour de multiples autres luttes paysannes. Cet espoir nous conduit aujourd'hui à boycotter à nouveau les produits de l'apartheid, celui qui enferme les paysans palestiniens dans des camps pour voler leurs terres. Je laisserai conclure l'ami Fabrizio, jeune paysan italien, qui a accompagné Nicolas dans le programme européen de soutien aux nouveaux damnés de la terre que sont les travailleurs saisonniers migrants. Il relaye pour nous tous son héritage. Nicolas nous manquera énormément. Maintenant, c'est à nous de marcher contre l'exploitation et la spoliation des travailleurs agricoles et de notre paysan et de nos paysans. C'est un témoignage de Guy Kastler, qui est donc paysan dans l'Hérault et qui est responsable, un des responsables de l'association Semences Paysannes.
J'ai souvent pensé, c'est loin la vieillesse, mais tout doucement la vieillesse vient, petit à petit, par délicatesse, pour ne pas froisser le vieux musicien. Si je suis trompé, par sa politesse. Si je crois parfois qu'elle est encore loin, je voudrais surtout qu'avant m'apparaisse ce dont je rêvais quand j'étais gamin. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Bien sûr, on dira que c'est des sottises, que mon utopie n'est plus de saison, que d'autres ont chanté le temps des cerises, mais qu'ils ont depuis changé d'opinion. Moi, si j'ai connu des années funestes et mes cerisiers des printemps pourris, je n'ai pas voulu retourner ma veste ni me résigner comme un homme aigri. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Tant que je pourrai traîner mes galoches, je fredonnerai cette chanson-là que j'aimais déjà quand j'étais gavroche, quand je traversais le temps des lilas, que d'autres que moi chantent pour des prunes. Moi, je resterai fidèle à l'esprit qu'on a vu paraître avec la commune et qui souffle encore au cœur de Paris. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train.
Oui, c'était Ferrat qui chantait L'approche de la vieillesse. Nicolas Dunst n'avait que 65 ans quand il est parti. Et là, je voudrais quand même faire une petite incursion dans mes marottes personnelles. Vous savez, je suis très habité par le fait que les gens vieillissent trop vite, très mal, et puis ne s'attendent pas à vivre le maximum de la vie. Dans la Bible, il est dit, juste avant le déluge, l'âge de l'homme ne sera plus que de 120 ans. Et on se contente des deux tiers, et encore en bien mauvais état pour la plupart. À part quelques exceptions telles que Stéphane Hessel, Pisani qui est mort à 97 ans et quelques autres qui montrent qu'eux ont ciblé plus haut. Les généticiens modernes sont d'accord avec la Bible qui disent que on est programmé pour vivre, l'espèce humaine est programmée pour vivre de 120 à 140 ans. Alors que tout le monde n'y arrive pas, c'est évident, mais au moins qu'on arrive le plus loin possible en ayant ciblé assez haut pour aller au-delà de ce que nous aurions fait si nous n'avions ciblé que 80. Voilà, et je voudrais, pour terminer cette émission, vous parler encore de l'engagement de Nicolas Dunst, qui s'est beaucoup bagarré à Via Campesina, notamment pour les travailleurs immigrés, à propos des scandales des attaques racistes qui ont eu lieu à El Ejido en 2000. Il a œuvré avec le syndicat des ouvriers agricoles d'Andalousie et s'est donc beaucoup battu pour que les ouvriers saisonniers, les ouvriers immigrés soient mieux respectés dans les travaux de l'agriculture notamment. Et pour terminer cette émission, je vous invite à écouter encore Ferrat dans Camarades, parce que je pense que c'était ce qui animait Nicolas Duns, cet esprit de camaraderie.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bade, les lèvres s'épanouissaient. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade.
Amis auditeurs, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mardi prochain sur FM+. Et je vous souhaite une très très bonne semaine.
C'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bade, les lèvres s'épanouissaient. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici?